vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Nous rappelons encore des incendies de 2023 et de leurs conséquences sur l'air que nous respirons. Pour la première fois de son histoire, Montréal a été sacrée ville ayant la pire qualité de l'air au monde. Transport automobile, combustion d'énergie fossile, chauffage au bois, charge l'air ambiant de particules fines et de contaminants nocifs pour nos poumons. Au Québec, la pollution de l'air causerait 4000 décès prématurés par année. C'est 10 fois plus que les décès par accident routier. La pollution de l'air est associée au tiers des maladies cardiovasculaires, à des maladies pulmonaires obstructives chroniques et à des cancers respiratoires. Devrions-nous faire de notre qualité de l'air une priorité? Pour le savoir, restez avec nous. À Je vote pour la science, aujourd'hui, nous intéressons à la qualité de l'air en ville. Quels sont les contaminants les plus nocifs pour la santé humaine et comment y faire face? J'en parle tout d'abord avec Alexandre Barry, spécialiste environnement et qualité de l'air à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Donc, commençons. Pourquoi les feux de forêt en 2023 ont été particulièrement préoccupants pour la qualité de l'air? Rappelez-nous.
Ben, c'est une très bonne question. En fait, les feux de 2023 ont été particulièrement intenses. C'est vraiment une année, en fait, où on a une superficie brûlée qui a été assez exceptionnelle, en fait, je dirais, pour le Québec et même à l'échelle du Canada. Donc, pour vous donner un peu les chiffres, au Canada, on a eu 18 millions en fait, d'hectares de forêts qui sont partis en fumée. Puis, au niveau du Québec, c'est 4,3 millions. Il faut savoir que c'est plus que la somme des superficies sur les 20 dernières années. Donc avant 2023 en fait qui ont brûlé et ce qui a eu pour conséquence en fait de produire des panaches de fumée donc on a vu c'est passé au niveau de la radio, de la télé où on avait une très mauvaise qualité de l'air notamment à Montréal et puis qui a marqué les esprits par cette couleur jaune du panache de manière générale.
Qu'est-ce qu'on trouvait justement dans l'air dans ce panache là qui...
Ben ça va dépendre vraiment de la proximité en fait avec la source donc avec les feux. C'est sûr qu'on va avoir une multitude de polluants qui vont être émis en fait en fonction du combustible, donc vraiment en fonction du bois qui va brûler, de la végétation de manière générale. Donc à proximité de la source, on va retrouver surtout des gaz en fait qui vont être émis. Mmh. On va retrouver aussi des particules fines, donc vraiment à la proximité de la source. Mais sur des distances beaucoup plus lointaines, on va avoir un transport notamment des particules fines qui sont émises. Donc quand on parle des fameuses PM2.5, pour utiliser la notation scientifique, on va les retrouver donc à des milliers de kilomètres, à des centaines de kilomètres. Puis c'est surtout ça qui va affecter en fait la qualité de l'air, notamment à Montréal ou dans le sud du Québec.
Uh-huh. Et que retrouve-t-on généralement plus dans l'air des villes québécoises comme principaux contaminants? Là, vous parliez des particules fines 2,5 microns, là. Ça, c'est généralement... ça dépend, en fait. C'est ce qui est émis, mais qu'est-ce que c'est, ces contaminants-là, qui sont dans l'air des villes?
On va retrouver encore les particules fines. Pourquoi les particules fines? Notamment en fait à cause du transport. Donc le transport est un des premiers émetteurs de particules fines. Puis on va avoir aussi d'autres activités qui peuvent en émettre, là, des industries de chauffage au bois. Oui. Et un autre polluant qu'on va retrouver particulièrement, c'est l'ozone troposphérique, donc le O3.
Oui, c'est quoi ça?
Donc l'ozone, en fait, c'est un polluant qui est secondaire. Quand on veut dire secondaire, en fait, c'est qu'il n'est pas émis directement par des sources. Ça va être une transformation en fait de polluants primaires qu'on va par exemple avoir le dioxyde d'azote. On va avoir des composés organiques volatiles qui vont se transformer en fait dans l'atmosphère sous l'influence des rayons UV, de la chaleur, pour produire en fait de l'ozone troposphérique. Puis il faut savoir en fait que les particules fines et l'ozone troposphérique sont les principaux responsables en fait des journées de mauvaise qualité de l'air qu'on peut avoir par exemple à Montréal.
Oui, qu'est-ce que ça fait concrètement sur les populations qui sont exposées?
En fait, ça va vraiment dépendre. Je vais d'abord revenir sur le type d'exposition. Donc, ça va être vraiment la durée d'exposition, le type de polluant, puis vraiment la sensibilité individuelle aussi des personnes. Ce qu'il faut noter, c'est que de manière générale, on va avoir deux types d'effets qu'on va utiliser, on va dire, dont on va parler, c'est les effets à court terme et les effets à long terme sur la santé. À court terme, on va souvent avoir en fait des symptômes qu'on dit transitoires, donc qui vont être passagers. Typiquement, ça va être une irritation des voies respiratoires, une irritation des yeux, ça peut être des maux de tête. Donc typiquement, dans le cas des feux de forêt, quand on va être exposé à très court terme à une grosse concentration, c'est des symptômes qu'on peut développer. On va avoir aussi plus des symptômes un peu plus graves à court terme. Par exemple, si on a des populations qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes respiratoires existants, ça va venir exacerber leurs symptômes. Donc potentiellement, ça peut entraîner des visites à l'urgence ou même augmenter la mortalité. Parce que ça va avoir des impacts aussi sur le système cardiovasculaire, etc. À long terme, donc là, un autre type d'effet, donc on va retrouver aussi cette exacerbation des symptômes d'asthme. On peut même avoir un développement de l'asthme, en fait, chez les enfants. On va avoir aussi certains cancers qui peuvent se développer, notamment le cancer des poumons, donc qui a été particulièrement documenté en lien avec les particules fines. Puis ça peut, bien sûr, augmenter la mortalité des personnes.
Comment se fait la surveillance de ces contaminants atmosphériques ?
Au Québec, en fait, on va avoir la surveillance qui va être effectuée par le ministère de l'Environnement, des Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs. Donc, avec un réseau de surveillance qui est d'environ une soixantaine de stations. Je crois qu'en date de 2023, c'était 67 stations. Qui va s'occuper, en fait, de la surveillance pour le Québec, à l'exception de Montréal, parce que Montréal est à sa propre réglementation en fait sur la qualité de l'air, puis c'est vraiment la ville de Montréal qui se charge de la surveillance. Concrètement, donc on a un réseau établi en fait pour surveiller la qualité de l'air.
Qu'est-ce qui surveille? C'est quoi les...
Donc généralement, la surveillance va se faire sur des polluants, on va dire les plus communs, donc les particules fines. On va avoir donc l'ozone troposphérique, on va avoir le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre aussi, qui est plutôt associé en fait aux émissions industrielles. Donc ça, c'est généralement les polluants qui sont mesurés en continu par ces stations d'échantillonnage, puis qui sont surtout utilisés pour formuler l'IQA, qu'on va dire, donc l'indice de qualité de l'air.
Et l'indice de qualité de l'air, souvent on voit justement moyen, modéré, bon. Comment on peut comprendre cet indice-là? Parce que des fois, on a l'impression que ce qu'on voit à l'extérieur ne correspond pas forcément à ce que l'indice dans le métro, là, mais bon.
Non, exact. C'est un indice particulièrement... C'est pas forcément évident à utiliser. Donc, à la base, ça faisait vraiment un indice pour, on va dire, faciliter l'interprétation des concentrations de polluants, mais qui n'est pas forcément... on va dire idéal pour nous aider à l'interprétation. C'est sûr que pour la santé publique, on préfère utiliser des concentrations de polluants parce que toutes les normes, réglementations sont définies sur des concentrations. Puis c'est sûr que potentiellement pour la population, ça serait plus simple de pouvoir comparer avec ce qui existe puis les effets sur la santé. Donc c'est pas un indice très facile à utiliser, on va dire.
Entendu. La mesure de la qualité de l'air à Montréal, vous l'avez dit, est sous responsabilité municipale. Est-ce que cette surveillance est suffisante à Montréal? Parce qu'on a l'impression que les sources de pollution, à commencer par le transport autoroutier, là, est très important.
C'est une très bonne question. C'est ça, à Montréal, donc si on prend les 67 stations que je vous ai mentionnées, il y en a 11 en fait qui se trouvent à Montréal. Faut savoir que la répartition des stations est déterminé par le fédéral, en fait. Donc, le fédéral va émettre des lignes directrices qui, elles, vont déterminer combien de stations on va avoir, par exemple, pour un certain nombre de populations. Donc, si je me réfère à ces lignes directrices, typiquement, ça va être une station pour 500 000 habitants. Donc, théoriquement, on devrait avoir 4 stations d'échantillonnage de la qualité de l'air. Donc, la ville pousse pour en avoir plus, pour vraiment fournir un portrait, en fait, à sa population. Puis on va avoir aussi des stations supplémentaires que la ville a mis en place, qu'on appelle des stations pour des projets spéciaux, qui elles vont chercher à comprendre l'influence de certains polluants, par exemple. Donc ça peut être le trafic routier, ça peut être l'industrie, dépendamment de où elles vont être placées. Est-ce que ce nombre de stations est suffisant? Idéalement, pour la santé publique, on aimerait en avoir partout, pour fournir en fait un portrait plus local à la population, parce que l'enjeu, comme peut-être vous l'avez vu, c'est que quand on a des feux de forêt, par exemple, on réfère la population aux stations d'échantillonnage. Puis la population n'a pas forcément une station juste à côté de chez elle ou dans leur coin de rue. Donc ce qui peut être difficile pour eux d'interpréter la donnée, c'est est-ce que la qualité de l'air va être la même à 3 km versus juste à côté de chez nous. Donc effectivement, on aimerait avoir une échelle plus fine en fait dans la donnée pour pouvoir être transparent avec la population puis leur fournir les conseils adéquats en fonction des concentrations qui sont mesurées. Par exemple, pour la station Nomade, qui est une des stations mobiles utilisées par la ville de Montréal, c'est une station qui est très bien équipée, donc qui mesure vraiment tous les polluants qui se mesurent à l'heure actuelle au Québec et au Canada. Puis le but, c'est vraiment d'aller chercher potentiellement des polluants qu'on n'avait pas l'habitude de mesurer, puis d'aller les mesurer pour avoir un portrait représentatif, en fait, sur l'île.
Oui, pour avoir un portrait bien précis. Donc, que peuvent faire les municipalités dans cette lutte à la pollution atmosphérique? J'imagine surveiller, mais...
c'est ça, surveiller est toujours un peu le nerf de la guerre, là. C'est d'avoir un peu des données sur ces polluants-là. Mais c'est sûr que je dirais ça revient toujours un peu à... Nous, on aime bien parler de pyramide d'intervention en santé publique, puisqu'on vise, généralement, c'est la réduction à la source. La réduction à la source, ça peut passer par des réglementations qui vont être plus strictes. Donc, c'est vraiment de s'assurer que les polluants mesurés ou vont être régulés correctement. Donc, souvent, nous, on utilise comme référence pour les polluants les plus courants les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est celles qui sont les plus protectrices, on va dire, mais ça reste que c'est des lignes directrices, c'est pas des normes. Donc c'est sûr que idéalement on aimerait que ces réglementations tiennent compte en fait de ces lignes directrices là. Ça peut passer aussi par peut-être un sujet moins touché, mais l'aménagement du territoire. Donc pour limiter l'exposition, puis pour éviter que les populations en fait se trouvent à proximité des sources de émettrices. Ça peut passer effectivement par la surveillance. Puis ça peut passer aussi par l'éducation en fait de la population.
Oui, quoi faire quand il y a une mauvaise qualité de l'air, c'est ça?
Quoi faire? Aussi, un enjeu qu'on voit, c'est la multitude en fait de plateformes pour surveiller la qualité de l'air sur Internet. Ça serait de comprendre qu'est-ce que signifient en fait ces indices comme l'IQA, ou de comprendre en fait comment interpréter une concentration de polluants. Puis effectivement, de savoir à peu près en fonction des concentrations mesurées, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter son exposition ou limiter son exposition. Donc tout ça, c'est des solutions. C'est pas spécifique au milieu municipal, mais c'est vraiment de manière générale au niveau du gouvernement, puis des acteurs en fait qui jouent un rôle vraiment dans la surveillance et la régulation de la qualité de l'air.
Entendu. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Alexandre Baris, spécialiste environnement et qualité de l'air à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Merci.
Merci à vous.
Je vote pour la science est une émission produite par Science Presse. Visitez son site internet au sciencepresse.qc.ca. Bonne écoute. Je rejoins maintenant Joanne Elsener, membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, médecin vétérinaire de formation et présidente de l'organisme Santé Urbanité. Bonjour.
Bonjour.
Le 7 septembre dernier était la Journée internationale de l'air pur pour les ciels bleus, désignée par l'Organisation mondiale de la santé. Trois membres de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, d'ailleurs, ont souligné l'importance de la qualité de l'air pour la santé des humains et de l'environnement. Donc, pour commencer, peut-être, pourquoi les épisodes de smog sont-ils plus fréquents et qu'est-ce qui explique cette tendance, Madame Elsener?
Écoutez, c'est sûr que les changements climatiques ont un impact sur les épisodes de smog au Canada. On sait que par les différents modèles sur les changements climatiques, il va y avoir une augmentation de la fréquence des feux de forêt au Canada qui dégage vraiment beaucoup de fumée et qui, par les vents, dérive vers les centres habités. Oui. Alors, on a vu en 2023, l'été 2023, on l'a vu aussi l'été dernier, vraiment d'immenses feux de forêt qui ont assombri l'air, oui, mais aussi pollué l'air de nos villes québécoises et canadiennes.
Généralement, les sources de polluants, de pollution les plus préoccupantes chez nous, c'est d'où viennent-elles et pourquoi?
Écoutez, En fait, quand on parle, vous savez, des feux de forêt, ce sont des épisodes aigus de pollution de l'air qui amènent vraiment des niveaux élevés de polluants atmosphériques. Mais il y a aussi dans nos villes québécoises une pollution chronique, une pollution quotidienne qui est présente durant l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et qui affecte la santé des Québécois. Et cette pollution-là qui est présente de façon chronique, qui est responsable d'environ 4300 décès prématurés au Québec, selon Santé Canada, avec des coûts sanitaires de 34 milliards de dollars par année, bien, elle provient de plusieurs sources. Alors, une source significative, ce sont les transports. On parle de l'automobile, mais on parle aussi du train, du bateau, de l'avion.
Le camionnage aussi, j'imagine.
Exact. Le camionnage aussi. On parle aussi de la combustion d'énergie fossile, donc encore tous nos édifices qui chauffent au gaz naturel, qui vont employer des énergies fossiles pour chauffer. Évidemment, durant l'hiver, on a le chauffage à bois par des poêles à bois, là, qui sont non certifiés, donc qui peuvent émettre des quantités élevées là, de particules fines en particulier. Et évidemment, il y a des industries qui sont émettrices de polluants. Là, il y en a qui ont fait les manchettes, par exemple la fonderie Horn, c'est ça, à Rouyn-Noranda, ici à Québec, le port de Québec avec les émissions de nickel là, par la compagnie Glencore. Donc, il y a aussi ces émissions-là là, qui sont des émissions là, qui peuvent être plus ou moins présentes dans certaines villes là, et avoir des impacts négatifs sur la santé des gens.
Oui, ces polluants, lesquels sont les plus préoccupants et peut-être sous-estimés dans la discussion publique autour de la qualité de l'air?
Écoutez, les classiques, je vous dirais, je vais les dire comme ça, les classiques, on parle de particules fines, donc qu'on appelle les PM2.5 dans notre jargon. On parle d'oxyde d'azote, on parle d'ozone. Maintenant, il y a aussi d'autres polluants qui sont on les appelle en émergence. Donc, les particules ultrafines, par exemple, l'ammoniac, probablement aussi les microplastiques qu'on retrouve aussi dans l'air de nos villes. Et il y a évidemment des polluants qui sont extrêmement toxiques, qui sont présents à certains endroits, dont beaucoup sont cancérigènes. Alors, on peut penser à l'arsenic, au nickel, au cadmium. Donc, je vous dirais que ce sont les principaux polluants, mais il y en a encore d'autres qui sont aussi nocifs pour la santé, quand on pense au HAP, par exemple, au CO, donc les composés organiques volatiles. Alors, c'est une collection, si vous voulez, de polluants. C'est un enjeu qui est complexe. Hein, je vous l'ai dit, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs polluants qui sont nocifs. Donc, c'est pour ça que nous, à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, on a publié il y a 2 ans un cadre de référence sur l'air sain et qu'on a demandé au gouvernement du Québec d'adopter une stratégie nationale de l'air. Parce que pour être capable, si vous voulez, de diminuer le niveau de pollution chronique dans nos villes, il faut être capable de travailler ensemble sur l'ensemble des sources potentielles de polluants de l'air. Et ça prend vraiment un travail, si vous voulez, de collaboration, mais aussi une base réglementaire là pour faire en sorte qu'on y arrive.
Oui. Si on se compare avec d'autres provinces ou d'autres pays, comment on se place au point de vue de qualité de l'air?
Ben, écoutez, c'est sûr que si on se compare, par exemple, à certains pays comme l'Inde,
ou la Chine,
ou la Chine, c'est sûr que nos niveaux de polluants atmosphériques sont moins élevés que dans ces pays-là. Mais ceci étant dit, ils sont suffisamment élevés pour causer un problème majeur de santé dans la population. Tout à l'heure, je vous parlais de 4300 décès prématurés par année au Québec. Pour avoir une comparaison, là, si vous voulez, la COVID a causé environ 4000 décès prématurés en 2021. Donc, c'est comme si on avait à chaque année une COVID 2021 là, qui sévit dans la population du Québec. Et on sait que les effets nocifs des polluants atmosphériques augmentent très rapidement à des faibles concentrations. Mm-hmm. L'Organisation mondiale de la santé recommande, par exemple, pour les particules fines, une norme annuelle de 5 microgrammes par mètre cube. Et on sait qu'entre 5 et 10 microgrammes par mètre cube, c'est un peu ce qu'on retrouve, si vous voulez, dans nos villes québécoises, oui. Il y a vraiment une forte augmentation de l'impact, par exemple, sur les maladies cardiovasculaires, sur ce que les gens appellent des crises cardiaques, les infarctus du myocarde. Donc, c'est très, très important de travailler sur cet enjeu-là, même si nos niveaux de pollution sont moins élevés, par exemple, que dans d'autres pays.
Oui, parce qu'en fait, ça affecte les plus vulnérables. Comment concrètement la contamination affecte la santé humaine? Parce que c'est pas juste pour les voies respiratoires, si je comprends bien.
Ben c'est ça, exactement. Parce que pendant longtemps, on a pensé que ça n'affectait que les voies respiratoires, parce que l'air pollué qu'on respire, il va dans nos poumons. Et on a associé la pollution de l'air avec de l'asthme, par exemple. Mm-hmm. On sait que ça peut causer l'asthme, avec le cancer du poumon, le cancer des voies respiratoires, des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Mais la science médicale a évalué, mm-hmm. et là, on a découvert que ces particules-là, elles étaient suffisamment petites pour pénétrer dans le sang au niveau du poumon. Donc, ces particules-là empruntent la voie sanguine et peuvent causer des dommages à nos artères. On sait, il y a des études qui ont démontré que ces polluants-là peuvent causer des dommages au niveau de l'endothélium, donc la surface intérieure des artères, mm-hmm. et prédisposer, par exemple, à l'athérosclérose, donc aux plaques de graisse, qui entraînent des maladies cardiovasculaires.
Il y a aussi
malheureusement, on s'est aussi aperçu que les polluants atmosphériques peuvent sortir des vaisseaux sanguins pour aller dans différents organes. Et il y a des études qui rapportent une association entre la pollution de l'air et le cancer du sein, par exemple, mm-hmm. le cancer de la prostate. Et on a longtemps pensé aussi que le cerveau était protégé contre la pollution atmosphérique parce que il y a une barrière qu'on appelle la barrière hémoencéphalique qui empêche certaines substances de pénétrer dans le cerveau. Mais malheureusement, il y a des études qui ont démontré que les polluants atmosphériques peuvent pénétrer soit directement par le bulbe olfactif, donc quand on inspire, ça passe du bulbe olfactif au cerveau, ou ces polluants-là peuvent causer une espèce de si vous voulez, d'inflammation chronique de la barrière hémoencéphalique, ouvrir ses pores et permettre d'entrer dans le cerveau, de telle sorte que maintenant, on rapporte dans certaines études un lien entre la pollution atmosphérique et la démence, par exemple, chez l'aîné, ou des retards de développement cognitif chez les enfants. Et de l'autisme chez les enfants.
Oui. Vous êtes co-autrice du cadre de référence pour un air sain, donc de l'Association québécoise des médecins de l'environnement. Pouvez-vous un petit peu nous présenter ce cadre de référence?
Ben écoutez, on a dans ce cadre de référence-là, on a tenté de dresser le portrait de la situation, donc de décrire les impacts de la pollution de l'air sur la santé humaine, de décrire les différents types de polluants, les différentes sources de polluants, d'essayer de voir s'il y a des lacunes dans le portrait de la pollution qu'on a au Québec, parce qu'on a un réseau avec des capteurs qui permettent de mesurer les polluants. Maintenant, ces capteurs-là, ils ne couvrent pas tous les quartiers, ils ne couvrent pas toutes les villes du Québec. Donc, pour avoir vraiment une image fine de la pollution atmosphérique, c'est extrêmement difficile d'avoir cette image-là et donc d'évaluer l'impact sur la santé de la population. On l'a dit, il y a un problème au niveau d'une stratégie nationale pour essayer de travailler collectivement sur cet enjeu-là. Il y a aussi des déficiences, si vous voulez, dans l'éducation de la population au niveau des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique. Aussi, au Québec, on a besoin d'un système ou d'une stratégie de prévention des pics de pollution. Par exemple, si il y a des pays ou des villes comme Genève, par exemple, pour nommer Genève en Suisse, qui ont des modèles de prédiction des pics de pollution atmosphérique, et quand le modèle prédit un pic de pollution qui s'en vient, il y a des mesures qui se mettent en place pour essayer d'atténuer le pic. Par exemple, il décide d'interdire l'utilisation des foyers extérieurs, par exemple, durant l'été. Il décide d'offrir le transport en commun gratuit à tout le monde parce qu'on sait que le transport en commun émet relativement moins de polluants, surtout s'il est électrifié, que le transport automobile solo. Il décide de réduire la vitesse sur les autoroutes, de passer de 100 km/h à 70 km/h. Sur les autoroutes urbaines si vous voulez, réduire les émissions. Et ils ont aussi un système de pastilles dont la couleur équivaut au niveau d'émissions des véhicules automobiles et des camions. Donc, si un pic de pollution qui est prédit, ils peuvent interdire le centre-ville à certains véhicules extrêmement polluants. Là, on parle des vieux camions, par exemple, ou diesel. Donc, c'est pour ça qu'avoir, si vous voulez, une stratégie nationale comme on le propose, c'est extrêmement important pour venir, si vous voulez, à bout de ce problème-là. Il peut y avoir des initiatives locales, par exemple, si la Ville de Québec a adopté un règlement, si vous voulez, sur la certification des poêles à bois, la même chose à Montréal, mais les villes limitrophes de Montréal ou de Québec n'ont peut-être pas adopté, ce qui fait en sorte que même si on légifère ici à Québec, il y a une partie de la pollution là, qui peut venir, par exemple, de Saint-Augustin ou à Montréal, de la couronne de Montréal.
Oui, c'est un peu comme la lutte au changement climatique. On ne peut pas juste faire ça de notre côté en espérant que résoudre ce problème-là. Donc, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Joanne Elsener, membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et présidente de l'organisme Santé Urbanité. Merci.
Merci, au revoir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robartcher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bio...